merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère comme chaque mardi, désormais, vous le savez, de 13h30 à 15h, pour avoir un peu plus de temps devant nous. Et j'avoue que la densité, l'intensité de l'actualité internationale nous invite à prendre tout notre temps. Alors je vais commencer par un avis de recherche qui va vous surprendre. Avez-vous vu passer Paul Kagame ? Vous, non, vous n'avez pas vu passer Paul Kagame. Eh bien, tous les Rwandais le cherchent. On ne sait pas où est Paul Kagame, le président de la République rwandaise depuis 30 et quelques années. Alors, apparemment, il y a une info, la seule info qui est filtrée. Il est dans un hôpital en Allemagne. On ne sait pas ce qu'on lui fait. Est-ce qu'il y est dans une chambre mortuaire ? Est-ce qu'il est encore vivant ? On n'en sait rien. Donc, l'appel est lancé. Où est Paul Kagame ? Dans quel état est Paul Kagame ?
Alors, oui, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux africains, ils le tiennent pour mort. Hein.
Voilà. C'est une des hypothèses qui circulent, mais pas plus, parce que les gens qui sont sur place, donc à Kigali, se disent maintenant, qui va prendre le fauteuil ? C'est un fauteuil de poids. C'est un tout petit pays, le Rwanda, mais qui avait un poids important dans l'économie internationale et dans la diplomatie internationale. Et donc, je pense qu'il y a des appétits féroces. Hein. Soit chez les Tutsis, soit éventuellement, pourquoi pas, chez les Hutus. Il y a encore des Hutus, hein, il y a encore des Hutus sur le sol du Rwanda. Bon, donc là, situation extrêmement ouverte. Ce pays a été tenu par une main de fer par Kagame depuis le génocide. Hein. Donc lui, alors Kagame, je le resitue, fait partie des Tutsis qui ont échappé à l'élimination parce qu'ils n'étaient pas sur le territoire du Rwanda. Paul Kagame était à la tête d'une force patriotique rwandaise qui était basée en Ouganda et qui, à l'occasion, venait faire le coup de feu, rentrait sur le territoire rwandais et repartait. Donc il a fait partie, ils s'étaient installés eux-mêmes comme les survivants Tutsi obligatoires puisqu'ils n'étaient pas sur place. Ils n'ont couru aucun risque et ils ont pu arriver après et prendre le pouvoir dans le champ de ruines ethniques qui était celui du Rwanda. Et depuis, il ne l'a pas lâché et il a été soutenu par l'Occident largement. Il est un des parasites du trafic des métaux rares du Congo, etc. Enfin, on sait tout ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais là, on est dans une phase extrêmement ouverte où personne ne sait. La succession de facto est ouverte, mais si jamais, miraculeusement, dans 8 jours, il reparaissait une espèce de résurrection, vous savez, un jour de Pâques à la rwandaise, il est ressuscité, puis après on aurait une ascension à la présidence de la République. Enfin, on peut tout imaginer, mais je livre ça à votre réflexion, parce qu'il s'agit d'un endroit assez clé dans l'économie de l'Afrique, en particulier dans l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique, qui sont pillées massivement, on le sait, ça c'est pas nouveau de le raconter. Et donc c'est un endroit où la situation doit être suivie comme le lait sur le feu par toutes les diplomaties étrangères, mais personne ne dit rien. Même peut-être ceux qui savent qu'effectivement Paul Kagame est déjà mort. Mais à ce moment-là, si vous le savez, que vous soyez les services secrets russes ou la CIA ou le MI6 britannique, vous ne dites rien, vous allez sélectionner le successeur ou la successrice. C'est ça qui se passe dans ce genre. Parce que la population peut être inquiète, mais la population n'aura pas voix au chapitre. Le successeur de Kagame ou la dame qui succédera à Kagame va être sélectionné par des services étrangers. Alors comme en plus ils ne seront pas tous d'accord, ça risque d'être assez chaud. Donc on va suivre ça tranquillement. Ce n'est pas une actualité centrale, mais pour l'équilibre général de l'Afrique politique, c'est très très important, puisque c'était une sorte de verrou entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Bien, j'en dis pas plus. Donc on est content de vous retrouver aujourd'hui. Je retrouve avec plaisir donc Roselyne, bonjour. Je retrouve avec plaisir Habib, qui est en pleine forme. On a chaud à Marseille, il fait chaud, ça y est, la vague de chaleur.
Il fait bon,
elle est arrivée. Et on va essayer de parler de cette actualité extrêmement abondante. Alors, j'ai parlé de Kagame, c'était pas pour une distraction, parce que c'est effectivement tout à fait important. Et je vais vous parler un petit peu de Panama. Panama dont on parle peu, bien entendu, parce que ça dérange. Parce qu'on nous a fait rester, alors je parle des grands médias occidentaux, sur l'idée d'un accord du président de la République, M. Moulineau, avec Marc Rubio, le secrétaire d'État américain, venant dire « je vous interdis de faire partie de la route de la soie, hein. Je vais vous imposer des bases militaires nouvelles états-uniennes sur le sol de la République Panama, etc. etc. » Et on attendait le miracle, le coup de baguette magique du déménagement des deux entreprises portuaires donc chinoise de Hong Kong, je précise, qui avait l'exploitation du trafic des containers dans l'entrée pacifique et dans l'entrée atlantique du canal. Bon. Depuis, sur ce sujet-là, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que la société qui exploitait, la société hongkongaise qui exploitait ces terminaux, qui devait donc être mise à la porte et remerciée, et les États-Unis avaient déjà choisi BlackRock, donc la banque, la grosse banque, et un opérateur. Et puis, en fait, cet opérateur n'est pas venu parce que les Hongkongais ne sont pas partis. Pourquoi ils ne sont pas partis ? Parce que la même boîte qui exploite ces deux terminaux a des intérêts importants en République populaire, intérêts immobiliers, intérêts portuaires dans le port de Shenzhen, en République populaire. Et donc, je pense que le gouvernement chinois est allé dire à ce monsieur, à ce milliardaire, cet ultra-milliardaire de 92 ou 94 ans, tu vas avoir des ennuis. Et donc, du coup, tout est resté calme. On n'entend plus du tout parler de la substitution de la nouvelle société entre les mains des États-Unis à la société hongkongaise. C'est le calme plat. Alors, c'est le calme plat sur ce dossier. Alors, par contre, au niveau de la société panaméenne, c'est la folie totale. Parce que M. Moulineau, le président, content et assuré de l'appui sans faille du gouvernement des États-Unis, donc Trump là, Rubio sur place, donnant des ordres et tout, s'est mis à table. Et on lui a dit de faire ci et faire ça. Il prend des mesures. Alors il prend des mesures, en particulier sur le code du travail et en particulier sur le régime de retraite. Alors il a pris des mesures tellement brutales qu'il a fait voter par un parlement à sa botte, qu'il a contre lui la totalité des magistrats qui sont en grève depuis plus d'un mois, la totalité du corps enseignant, la totalité des cueilleurs de bananes, parce que aussi les cueilleurs de bananes, ils sont nombreux. Ouais. La grosse zone de cueillette de la banane, c'est au nord de Panama, à la frontière costaricaine. Bon, tous ces gens-là ont décidé de faire grève. Et donc ça se passe très très mal parce que M. Moulineau envoie des forces répressives, il tue un petit peu à l'occasion, ils font des centaines de prisonniers, il y a des blessés et tout, donc à une situation explosive. C'est-à-dire, voilà, M. Rubio, regardez bien ce qui se passe, vous êtes venu donner des ordres, c'est la catastrophe, ça part dans tous les sens, et M. Moulineau aussi bien ne fera pas de vieux os à son poste. C'est ça qu'il faut retenir, mais c'est très intéressant au point de vue médiatique, puisque ce que je vous dis, je l'ai trouvé sur la presse latino-américaine sans problème. Par ailleurs, ça ne filtre pas du tout. Parce que c'est un grand ami des États-Unis à qui il arrive de gros ennuis et dont la place est extrêmement fragile. Ça, il ne faut pas le dire. Parce que l'intervention de Rubio et de Trump au moment de l'affaire des deux ports, là, c'était une intervention impériale. J'ai décidé, c'est comme si, c'est comme ça. Et là, ça sombre dans le ridicule au milieu d'une lutte sociale extrêmement vive et portée par toutes les catégories de la population pour défendre les services publics, le droit à la retraite, la sécurité sociale, etc. Donc un vrai mouvement de masse. Et puis dans les revendications, mais ce n'est pas central, c'est il y en a assez de la tutelle des États-Unis. Alors ça c'est dit aussi, mais c'est pour ne pas donner trop politiser le mouvement, à la fois les cueilleurs de bananes, les enseignants, les magistrats, ne mettent pas ça en avant, mais ça y est quand même dans le cahier de revendications. On ne veut pas que ce soit les États-Unis qui gouvernent Panama. Bon, mettez-vous ça bien dans la tête. Alors M. Moulineau, il aura un peu de peine à lire ce paragraphe-là des revendications, mais pour le reste, il ne sait que réprimer. Réprimé, et c'est en caoutchouc, enfin, il ne fait pas dans le détail, il y a eu déjà quelques morts, des centaines de prisonniers ramassés dans les manifestations. Panama est en ébullition. Retenez ça. Par contre, à côté, il se passe quelque chose. Alors, je viens en Colombie, puisque quand on est à Panama, on est presque en Colombie, il suffit d'aller un peu plus sur le sud, et puis un pays d'une autre taille, effectivement, et qui est en train de prendre un chemin très très intéressant. Sous la conduite de M. Gustavo Petro, son président, qui sait que de toute façon, il met ses jours en danger en menant une politique d'autonomie par rapport aux États-Unis. Je pense qu'il est clair. Il sait qu'il y a un contrat contre lui. S'il n'est pas encore signé, il peut l'être. Il a, à mon avis, il n'a aucun doute, parce que c'est un ancien guérillero qui est devenu après maire de Bogota, etc. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience politique. Et je pense qu'il a décidé de se mettre en situation de risque politique en disant « je veux faire avancer les affaires ». Et il a fait avancer les affaires d'une façon dont on ne vous parlera pas. Parce que la Colombie vient d'adhérer aux routes de la soie chinoise. Ouais. Ça, c'est très, très important. route de la soie sigeoise, ça veut dire des investissements dans le secteur des transports, dans tous les secteurs, dans l'intelligence artificielle, etc. Beaucoup, beaucoup d'investissements, des moyens, des échanges de services, de savoirs, etc. Donc, il vient de faire le bon choix. Et j'insiste là-dessus parce que ça reviendra un peu plus tard dans mon exposé. Ce n'est pas le choix des BRICS. C'est le choix de la route de la soie. C'est un choix d'accord 2-2, bilatéral, entre la Chine et la Colombie. C'est un esprit très très différent. Parce que les BRICS, j'y reviendrai, vous allez voir dans quel état sont les BRICS, c'est pas très joli à voir. Non, mais j'y reviendrai parce que c'est important de faire comprendre à ceux... Il y a une fraction de la gauche occidentale qui avait mis BRICS en avant avec des grandes lumières et des bougies d'anniversaire, comme si ça allait tout changer. Ça ne peut pas tout changer, d'autant moins que les États-Unis ne veulent pas que ça avance du côté des BRICS. Et donc, les BRICS, c'est une structure beaucoup plus molle, beaucoup plus faible. Et on verra, quand on va revenir sur la situation iranienne, qu'elle est vraiment très, très faible, la structure des BRICS aujourd'hui. Et elle est face à des problèmes pour lesquels elle n'a pas été faite. Alors donc, je ne suis pas en train, devant vous, d'enterrer les BRICS. Je suis en train de dire les événements nous donnent l'exacte mesure de ce que sont les BRICS. Ça peut s'améliorer. Ils peuvent faire des efforts, traverser ces difficultés temporaires qui sont très, très importantes. On verra. Mais il n'y a rien d'acquis, puisque d'une part, les BRICS sont des adversaires faciles des États-Unis. Tout ce qui est BRICS, ils leur veulent du mal par principe. Et les BRICS ne sont pas costauds pour s'opposer à ces tentatives de déstabilisation par les États-Unis et par le camp occidental en général. Voilà. À propos de BRICS, et j'en dirai pas plus, un des BRICS, c'est le I, c'est l'Inde. Et il faut suivre à la trace Monsieur Modi. Suivant à la trace M. Modi, parce qu'il est en train de devenir une espèce de super Erdogan. Je suis à droite, je suis à gauche, je suis avec tout le monde, je suis contre tout le monde, je suis moi-même, etc. Attention, M. Modi n'est contrôlé par personne. J'espère qu'il se contrôle lui-même, mais c'est tout. Quel est le dernier voyage qu'a fait M. Modi? Il est d'abord allé à Chypre. Ah bon, pourquoi à Chypre? Eh bien, parce qu'on en reparlera tout à l'heure à propos de l'affaire iranienne. Chypre est devenu une espèce de lieu de sauvetage de gens qui fuient Israël, de tas de choses comme ça. C'est aussi la base aérienne britannique, qui est un morceau du territoire chypriote qui n'a jamais été indépendant, qui est britannique, d'où partent les bombes, les bombardiers qui vont frapper l'Iran. Tout ça, ça c'est le rôle de Chypre actuel. C'est un endroit où, on le sait, la Turquie a volé un quart du territoire par la force des armes et a jamais voulu quitter cet endroit qu'elle avait piraté. Bon, c'est un endroit extrêmement instable. Bon, M. Modi va là pour voir ce qui s'y passe, prendre la température. Il fait un deuxième vol en allant un peu plus vers l'ouest et il arrive en Croatie. Ah, donc, qu'est-ce qu'il va faire en Croatie? Eh bien, il va tomber, effectivement, dans l'État qui a le plus fait pour faire exploser la Yougoslavie. Puisqu'il faut savoir que la Yougoslavie de 91 commence à exploser quand la Croatie et la Slovénie déclarent leur indépendance par rapport au gouvernement yougoslave fédéral. La Croatie est alignée sur l'Occident, la Croatie est dans l'OTAN, on le sait. Il y a même, je crois, une Croate qui est la présidente du Fonds monétaire international. Donc il y a un alignement sur le camp occidental qui est à peu près total. Quand on sait en plus qu'aujourd'hui, les pays qui étaient la Fédération yougoslave sont en difficulté les uns avec les autres et qu'on ne sait pas comment tout ça va évoluer, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine est en faillite, la Serbie est instable entre les mains d'un président qui, là aussi, court un peu à droite et à gauche et mange un peu à tous les râteliers. Bon, on a une situation éminemment explosive, donc les Balkans pourraient réexploser. Le jeu de l'Union européenne et des États-Unis, c'est dire, dès l'instant où tous les morceaux de l'ex-Yougoslavie sont dans l'OTAN, la partie est terminée. Mais ils n'y sont pas tous. La Serbie n'y est pas. La Bosnie-Herzégovine, on ne sait pas, parce qu'il n'y a personne qui gouverne vraiment la Bosnie-Herzégovine. C'est très, très embêtant. Donc l'affaire n'est pas faite. Donc le choix de M. Modi d'aller en Croatie, c'est un choix clairement pro-occidental, anti-chinois, anti-russe. Faut pas se faire de... Alors, il dit ça au nom de « je suis le maître chez moi, je décide de ma politique et tout ». On a compris. On sait aussi que c'est une politique anti-musulmane, la politique de M. Modi. Et c'est pas pour rien qu'il va en Croatie. En Croatie, où on a fait tout ce qu'il fallait pour que les musulmans, donc qui étaient des musulmans d'origine ethnique yougoslave, soient massacrés. Ça a été fait. Bon. Troisième étape de M. Modi. Il va au G7. Alors ça, on n'a pas beaucoup dit. Alors vous savez que c'est normal, le G7 peut avoir des invités qui assistent à ces réunions. Il se trouve qu'il était invité à la réunion du G7 au Canada. Hein ? Et il avait bien l'intention de discuter un petit moment dans la coulisse avec M. Donald Trump. Pas de chance, l'autre saute dans son avion et lui le laisse, quoi, sans aucune réponse à ses questions. Et donc regardez ce parcours. Volonté, tentative de rendez-vous avec Donald Trump qui échoue. Rendez-vous qui a été pris avec la Croatie, donc pro-anti-musulmane, comme l'est le PJB, le parti de maudits indiens. Les pieds posés à Chypre, un endroit extrêmement explosif aussi qui intervient dans le conflit iranien. Voilà, M. Modi est sur une drôle de route. J'en dis pas plus.
Est-ce qu'il peut se faire radier des BRICS ?
Alors, il n'y a pas, justement, alors c'est là qu'il ne faut pas rêver sur les BRICS. Il n'y a pas de procédure de radiation sur les BRICS, puisque ce n'est pas une organisation. Hein. Chacun rentre, sort et tout. Ouais. L'Argentine est rentrée ou a failli rentrer, elle est sortie. L'Arabie Saoudite a signé mais n'a pas ratifié, donc elle est sur le pas de la porte. Ouais. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans les BRICS.
Ouais, c'est neutre presque.
Oui, c'est neutre. C'est surtout business.
Voilà, tu disais c'était des alliances commerciales.
Voilà, principalement. Hein, et on échange des infos pratiques, on essaye de commercer ensemble, de trouver des accords, y compris bancaires, pour payer dans la monnaie de l'un et de l'autre. Ça, c'est intéressant à suivre. Mais pas plus que ça. Ça ne fait peur. À la limite, j'allais dire ça fait peur à personne. Si, ça fait peur aux États-Unis. Mais ce n'est pas une structure menaçante. Hein. Et on va voir qu'elle est extrêmement faible. Donc la position, le « i » de BRICS, moi je le mets presque entre parenthèses, on va voir. Hein. Alors quand on rajoute à ça, puisque je suis sur le sujet, que le Brésil va à la présidence des BRICS pour cette année, alors je n'ai pas regardé qui prenait la présidence pour l'année prochaine, enfin, ça peut être que l'Inde ou la Chine, je ne sais pas qui est le successeur. Alors on va voir, c'est très intéressant aussi. De toute façon, ce qui a caractérisé la présidence brésilienne des BRICS, à l'inverse de la présidence de l'année dernière qui était la présidence russe, c'est qu'on a très très peu parlé des BRICS au Brésil. Il y a eu quelques réunions, ministre des Affaires étrangères et tout, pas de grands sujets abordés. Et donc, en fait, on a une position beaucoup plus modérée du Brésil sur les BRICS.
C'est des échanges économiques.
Oui, voilà, ils vont pas plus loin que ça. Ouais. Alors, quand on sait en plus que la position de la gauche brésilienne, disons pour faire simple, de Lula, est pas très très forte électoralement, qu'il n'est pas sûr que son parti garde la présidence la prochaine fois, on a une indication de ce qui est en train de se négocier, c'est que le fils de M. Bolsonaro, qui va faire campagne pour la présidence à la place de son papa, a déjà déclaré que s'il est président, le Brésil sort des BRICS.
Ouais.
Donc là, l'enjeu est très très clairement sur la table. Et donc, je ne sais pas, le sommet début juillet, le sommet des BRICS au Brésil, ça fera beaucoup moins de bruit, parce que ça aura beaucoup moins d'ampleur, beaucoup moins de chair créatrice que le sommet en Russie. Ça sera du tout trop. Voilà, c'est ça les BRICS. Selon qui les mène, selon les sujets, on avance, on n'avance pas. Alors on peut avancer sur des sujets d'échange culturel, d'échange technique, etc. Mais ça ne donne pas une puissance qui interviendrait sur la politique internationale d'une seule voix. C'est pas du tout ça, et ça ne menace pas de le devenir, au moins à échéance visible. Donc à la place, il reste d'autres structures sur lesquelles on va revenir. Mais je voulais commencer par ça, parce que c'est très important de bien associer, surtout par rapport, je pense qu'il y a eu dans les gauches européennes et atlantiques, une espèce de rêve en disant « les BRICS vont tout changer ». Ben, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a des potentialités de transformation, mais le chemin est long. Et puis, c'est un assemblage un peu hétérogène de gens qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble si on les regarde un par un. Alors qu'ils disent, on va essayer d'échanger plus, de faire du commerce, ça va. Mais après, quand vous regardez la politique de l'Inde et la politique de la Chine, vous voyez bien qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Vous avez d'un côté un pays dirigé et de main de maître par un parti communiste, et de l'autre, vous avez un pays compliqué, avec des tendances séparatistes ici et là, un pays dont le parti dominant, je le répète, fonctionne sur une base raciste, c'est très important. C'est pas l'avenir de l'Inde, alors on dit, ils sont 1,4 milliard. Oui, 1,4 milliard. Mais on ne fait pas une unité simplement parce qu'il y a du nombre. On fait une unité sur un programme d'unification du pays. C'est loin d'être le cas. Hein. Toute une série d'États de la Fédération d'Inde n'obéissent pas et n'élisent pas n'élisent pas les gens du parti de M. Modi. Alors, il faut savoir que, par exemple, le voyage de M. Modi a été critiqué par le Parti du Congrès, l'ancien parti qui était au pouvoir, en disant « qu'est-ce que c'est que ces comédies ? Il engage l'Inde sur des chemins précaires ». Effectivement, c'est tout à fait le cas. Et on en reparlera.
Et je vois qu'il est allé aussi au Maroc.
Ah oui, t'as raison. Oui, parce que ça fait partie de, des coups de chapeau au sionisme dominant.
Ouais, ouais.
C'est le seul endroit d'Afrique où il a été bien accueilli, probablement, parce que en fait, c'est un morceau d'Israël maintenant. Un morceau des États-Unis. Puisqu'il faut savoir, j'ai évoqué ça la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il faut savoir, quand on regarde, les Marocains qui sont sur place et qui regardent, depuis que le Maroc a signé les accords d'Abraham, il y a des Israéliens partout. Hein, dans les ministères, dans les agences de renseignement, dans les sociétés de publicité, les conseillers du roi. Voilà, tout ça, ils sont partout. Donc en fait, le Maroc est une filiale de la République, enfin même pas de la démocratie soi-disant israélienne. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que Modi, il est allé là. Parce que là, il était sûr d'être bien accueilli. Il était presque en famille. Vous voyez, monsieur Modi, petit à petit. Alors Croatie, plus Chypre, plus le Maroc, ça fait beaucoup. Avec qui êtes-vous, monsieur Modi ? Et il va vous répondre, je réponds, je suis avec moi tout seul. Hein, ah. C'est en gros c'est ça sa position, parce que moi, je suis 1,4 milliard. Ça suffit pas de dire on est 1,4 milliard. Alors, on a des choses qui fonctionnent, on a des choses qui fonctionnent moins bien. On a la bombe atomique, mais on n'est pas seul à l'avoir. On ne devrait pas l'avoir, mais c'est quand même... Alors, il faut le rappeler, c'est quand même l'Inde qui a décidé d'avoir la bombe atomique pour terroriser le Pakistan. Et c'est le Pakistan qui a été obligé de faire la sienne pour ne pas être terrorisé lui-même. C'est ça l'histoire. Elle ne s'est pas passée dans l'autre sens. C'est pas le Pakistan qui, un beau matin, pris d'un coup de colère, a dit « je me fais la bombe atomique et je la lâche sur New Delhi ». Pas du tout. C'est l'Inde qui a décidé d'en finir avec le Pakistan et les menaces et l'existence même du Pakistan. Et c'est pour ça que le Pakistan a réagi. C'est pour ça qu'il prend la position sur laquelle on reviendra par rapport au conflit iranien.
Ouais.
Tout ça a une histoire. Mais c'est des histoires qu'effectivement, on ne nous raconte pas. Alors, ensuite, on va arriver au grade sujet. Alors, je ne sais pas si on fait notre intermède sur un peu d'histoire de France maintenant. Oui, on va faire ça maintenant, puis on reviendra au gros sujet après. C'est-à-dire, je vous ai évoqué la semaine dernière l'aventure qui était arrivée à notre amie Annie Lacroix-Ry, l'historienne, qui, à l'occasion d'une exposition mémorielle sur le personnel, les hôpitaux de Paris pendant l'occupation, il s'agissait de dire, mais effectivement, les hôpitaux ont continué de travailler, le personnel a fait son travail, qu'il soit chirurgien, brancardier, balayeur, tout le monde a fait fonctionner les hôpitaux de Paris pendant cette période difficile, où Paris en particulier était occupé depuis les premiers jours, enfin depuis la mi-juin 1940, et il fallait quand même que les services sociaux marchent à minima. Et donc, rendre hommage au personnel des hôpitaux de Paris, c'était un hommage nécessaire. Simplement, dans un de ces hôpitaux de Paris, alors il n'est pas exactement sur Paris, mais il est en assistance publique, il est à Issy-les-Moulineaux, donc c'est juste de l'autre côté du périphérique, il y a un hôpital qui s'appelle Corentin-Celton. Pourquoi il s'appelle Corentin-Celton ? Parce que, simplement, un des employés, ni chirurgien, ni brancardier, ni infirmier, ni rien du tout, hein, un homme de service, hein, qui s'appelait Corentin Celton, qui était à la fois militant CGT et militant du Parti communiste, a fait ce qu'il pouvait pour faire son travail à la fois dans l'hôpital et son travail de résistant, en tant que communiste interdit et en tant que militant syndical. Et un beau jour, il a été ramassé par la Wehrmacht, par l'armée allemande, et il a été conduit au Mont-Valérien, il a été fusillé. Voilà. Bon. Et ça ne faisait pas partie de l'exposition mémorielle sur les hôpitaux de l'assistance publique pendant l'occupation. Et notre amie Annie Lacroix-Ry, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire elle a dit « mais ça, c'est une erreur historique, on n'a pas le droit de nier ce personnage ». Alors c'est un personnage qui, on a quand même le nom d'un hôpital, le nom d'une station de métro, et on fait comme si c'était un détail. Ben, ce n'est pas un détail, M. Corentin Celton n'est pas un détail. Donc on n'a pas réussi à voir Annie Lacroix-Ry la semaine dernière au téléphone, donc on va l'entendre nous expliquer ce qu'elle est allée faire et pourquoi. Dans l'exposition, qui est une exposition qui est reproduite dans tous les hôpitaux de l'assistance publique, donc il y a des grands panneaux qui ont été faits pour les personnels, l'assistance publique pendant l'occupation. Voilà, on l'écoute.
Voilà. Voilà.
Il n'y a rien.
Il n'y a rien ?
Non.
Bon, alors...
Le passé, c'était la même chose.
S'il n'y a rien. Bon, je continue, tu vas voir. OK. Bon, alors, on a encore un problème technique, décidément. Bon, il faudra qu'on s'excuse auprès d'Annie Lacroix, parce que, décidément, on n'a pas de chance avec ses interventions. Bon, j'avais pris soin de l'enregistrer moi-même, de mettre l'enregistrement sur une clé que j'ai apportée. Bon, on a un souci. Donc, commençons. Donc, ce sujet étant mis pour l'instant de côté, on va aborder au sujet central qui est qu'est-ce qui se passe en Asie de l'Ouest, comme on dit, ou au Moyen-Orient, comme on dit plus traditionnellement, dans nos contrées. Alors, il faut revenir effectivement au point de départ, c'est-à-dire le point de départ n'est pas le 13 quand Israël attaque l'Iran. Le point de départ, il est le 12. Ah bon, c'est-à-dire que c'est le 12. Il s'est passé quoi ? Eh bien, il s'est passé, justement, la décision donnée à Israël qui pouvait y aller.
Feu vert.
Voilà, le feu vert. Alors, ça s'est passé où, ça ? Eh bien, ça s'est passé au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, le 12, on est la veille du bombardement, de l'attaque. Et qu'est-ce que fait ce Conseil des gouverneurs ? Alors, le Conseil des gouverneurs de la banque, de l'Agence internationale de l'énergie, c'est 35 personnes, représentant 35 pays, donc c'est très très important. Et ils sont soumis, écoutez bien, ils sont soumis à une pression d'un certain nombre de délégués qui sont là dans ce Conseil des gouverneurs, en particulier, je souligne, parce qu'on ne vous l'a pas dit, le délégué français et le délégué allemand, qui présente un texte dans lequel il est dit, et il le présente bien sûr avec l'aval de monsieur le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui préside les débats, qui est là, et qui les laisse dire, parce qu'il est d'accord, qu'effectivement, l'Iran n'est plus qu'à quelques jours d'avoir la bombe atomique. Malgré toutes les délégations de l'Iran, malgré tout ce que ses inspecteurs à lui ont pu dire du temps où ils allaient sur place, bon, tout ça passe... Il a perçu, donc le texte est mis aux voix, il est approuvé par une majorité, puisque donc la diplomatie française, la diplomatie allemande, c'est bon ? Bon, OK, merci, ça y est, je pense qu'on a sauvé l'interview. Alors, je finis rapidement là-dessus, puis on y reviendra. Donc le texte est soumis, il ne passe pas, enfin, il est voté à la majorité, ont voté contre, bien sûr, la Russie, la Chine, le Burkina Faso et quelques autres. Non. Mais à la majorité, il passe. Et ce texte donc passe et engage le gardien du nucléaire, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur la position, l'Iran est à deux doigts d'avoir le bombe, toujours dans le flou artistique, qu'est-ce que c'est être à deux doigts, quelques jours, à une semaine, à 6 mois. Alors, je rappelle quand même, et je finis là-dessus, que déjà en l'an 2000, le gouvernement israélien, donc c'était Ariel Sharon à l'époque, disait aussi que l'Iran était à quelques jours de la bombe atomique. Alors, cette vieille rengaine, qui a été démentie ensuite par les faits, sert encore, hélas, et là, elle avait été resservie, je la cite, je souligne, par la France et l'Allemagne, qui jouent un rôle catastrophique dans ces affaires-là, parce qu'ils sont les porteurs du mensonge collectif. Voilà. Donc maintenant, on repasse à Annie Lacroix. Je pense que cette fois, on y est. On y est ?
Voilà.
Sans sonner. Bon. Alors, je continue, puisqu'on a à nouveau un problème technique. Donc, ça, c'est le point de départ. Le 12, l'Assemblée des gouverneurs de l'AIEA dit, effectivement, l'Iran est à tout près d'avoir la bombe. Hein, donc, même discours que le vieux discours traditionnel des sionistes, l'Iran est à deux doigts d'avoir la bombe. Donc, il faut absolument arrêter ça tout de suite. Et tout était prêt... tout était prêt, parce que quand on dit ça le 12 au matin et que dans la nuit du 13, il y a un bombardement massif, c'est que ça n'a pas été improvisé, c'est pas parce que monsieur Netanyahu avait mal dormi, tout d'un coup il a appuyé sur plein de boutons, ça ne tient pas debout. Donc il a décidé, la frappe était prête et il avait simplement l'accord pour que ça démarre. Bon, et donc l'accord a eu lieu et donc le bombardement a commencé. Alors le bombardement, on a eu évidemment les deux versions. La première version, très simple, succès total.
Oh ouais, mais bien.
On a parlé, alors dans le vocabulaire de Trump, les installations nucléaires de l'Iran ont été oblitérées.
Ouais,
rasées, il ne reste rien.
Ouais.
Bon, alors effectivement, ça ne résiste pas beaucoup à l'examen, parce que la principale installation, celle de Fodor, elle est sous plusieurs centaines de mètres au sein d'une montagne, au bout du tunnel. On n'oblitère pas une chaîne de montagnes, ça s'est jamais vu. On a beau être le président des États-Unis d'Amérique, c'est grotesque de dire des choses comme ça. Bon, donc on a pu, effectivement, il y a eu des traces sur l'attaque des tunnels d'accès aux installations souterraines, mais pas plus. Et d'autres installations de surface dans les deux autres centres qui ont été attaquées. Mais en fait, ce qui était en préparation, c'était tout autre chose. Le nucléaire n'était qu'un prétexte. Il s'agissait de renverser le gouvernement iranien.
Oui, oui.
C'était ça l'objectif. Et pour atteindre l'objectif, eh ben, il faut essayer d'éliminer la couche dirigeante de la République islamique. Alors la couche dirigeante, c'est un mélange, puisqu'on est sur ces cas donc scientifiques, l'histoire du nucléaire, des militaires, des politiques pures. Il faut éliminer la couche dirigeante. Et comment faire pour éliminer la couche dirigeante? Eh ben, il suffit de demander au Mossad. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé au Mossad. Mais oui, parce que le Mossad, comme il a fait en Russie il y a quelques semaines, il fait venir, il a d'abord des agents sur place, évidemment, il y a des agents du Mossad
partout.
Oui,
il y en a eu pas mal, oui, voilà. Puis ils les ont tous pratiquement.
Voilà, et donc il n'y a pas de surprise, il y a d'abord une communauté juive qui vit en ville sa vie en Iran, qui n'est pas maltraitée du tout par le gouvernement, et puis il y a forcément des agents du Mossad là au milieu, qui vont, qui viennent, et on le sait. Et dans un pays de 90 millions d'habitants, on ne peut pas scruter un par un tous les personnages qui font, hein, c'est pas possible. Bon, même si on a des services de renseignement bien faits, ce qui est le cas, je pense, de l'Iran, il y a toujours des gens, du Mossad en particulier, qui sont des pros. Le Mossad est infiltré pratiquement dans tous les pays du monde, il faut le savoir. Hein. Mieux, c'est plus facile que pas. Parce que vous arrivez, quand on dit vous êtes de la CIA, vous avez tout de suite un drapeau. Ça. Vous arrivez, vous êtes le Mossad, le représentant d'un tout petit pays, on ne fait même pas attention à vous, vous cachez sous je ne sais quelle appellation de défense de la culture biblique de Salomon et du temple de David, et puis ça passe. Hein. Donc il y a des agents du Mossad dans le monde entier.
Ouais.
Qu'ont fait ces agents du Mossad, à Téhéran en particulier, où logeaient la plupart de ses dirigeants? Ils se sont approchés, alors écoutez bien ce qui s'est passé, ils se sont approchés avec des camions, des camionnettes, dans lequel il y avait un drone et dans lequel il y avait le pupitre de commande du drone.
Ouais.
Et ils ont tiré avec ces drones, ils ont tiré dans les lieux où dormaient les dirigeants en question avec leurs familles. C'est-à-dire que les familles ont été détruites dans leur lit pendant leur sommeil.
Ouais.
Hein. Donc ça, c'est un acte de terrorisme d'État à l'État pur. Bon. Et effectivement, la liste est longue, je crois qu'il y a une dizaine de massacres, d'assassinats terroristes qui ont eu lieu cette nuit-là.
Bon. Exactement le même en Russie.
Voilà, c'est exactement le même. Bon, donc en fait, après, quand on dit c'est pas pareil, mais si, c'est exactement la même technique. Alors, en Russie, il y avait des agents du Mossad qui étaient infiltrés, parce qu'il y en a partout. Et là, en Iran, il y en avait. Et puis, je pense qu'en Iran, depuis des années, Israël a fait tout ce qu'il fallait pour avoir une bonne base d'espionnage avec des gens, même qu'on de temps en temps, il y en a un qui est pris, on renouvelle, etc. Des gens qui parlent le farsi couramment, qui parlent l'arabe, qui parlent toutes les langues.
Ouais, c'est-à-dire, au nord de l'Iran, il y a les Kurdes.
En plus, voilà, c'est ça.
Et là-dedans aussi.
Là aussi. Et puis il y a la partie nord-ouest où il y a des Azéris. Et les Azéris, il y en a des deux côtés. Donc en Azerbaïdjan, on peut aussi trouver des agents doubles, etc. Bon, c'est une zone compliquée qui le reste. Ça va marcher. Bon, et donc, voilà ce qui se passe. Donc, ma tentative de décapitation du gouvernement iranien, ça c'est parfaitement clair. Et puis au passage, on dit pourquoi les avions ont réussi à passer. Alors ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait apparemment eu une cyberattaque. Et donc le système de défense aérienne iranien n'a pas marché, au moins pendant les heures du bombardement. C'est tout à l'heure. Alors, la cyberattaque, ça se fait parce qu'effectivement, on est un agent sur place qui est bien dans les réseaux, va produire un arrêt du réseau. Et donc, c'est ça une cyberattaque. Ça se fait. Les grandes puissances sont toutes capables de faire des cyberattaques quand elles ont envie d'en faire. C'est possible. Bon. Donc, c'est ça qui a eu lieu. Et ça a tellement trompé l'opinion qu'on nous a fait croire que c'était fini, que dans la mesure où tous les objectifs avaient été atteints, les bombardiers avaient pu venir taper, etc., sur les objectifs, on pensait que l'Iran était terminé, c'était fini.
Alors qu'après, le peuple est sorti.
Voilà.
Est sorti.
Alors, en plus, voilà. Alors, réaction populaire extrêmement forte, vive, parce qu'effectivement, menace existentielle. Et il s'est avéré que la cyberattaque avait été terminée et que le système de défense aérienne reprenait sa place.
Voilà.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Tu veux qu'on essaye maintenant ? On tente ? Alors, on va tenter. Là, elle est toute penaude parce qu'elle se fait conseiller, puis finalement, ça ne marche pas. Alors.
Voilà. Bon, très bien. Donc, on va en profiter. Donc, je suis sur WhatsApp, on va y rester. Tu vas nous raconter. Alors, je te dis, hier, j'ai évoqué la question donc, de Corentin, mais j'en ai pas dit plus. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait donc un hôpital qui porte son nom, pas depuis longtemps, depuis, je crois, 2014, c'est ça ?
Je ne me rappelle pas quand la nomination
voilà.
a été donnée. Mais l'hôpital a été rénové en 2004.
Voilà.
J'ai d'ailleurs Corentin Selton.
D'accord.
Mais bon, peut-être en 2014, en tout cas.
Pas bon.
C'est un ancien hospice qui dépendait de l'assistance publique dans lequel Corentin Selton avait été comme précédemment dans d'autres établissements, enfin notamment. Dans le 11e à Saint-Antoine.
D'accord.
Et donc, je dois dire que le scandale est particulièrement grand et ça explique bien entendu, alors que je suis une fonctionnaire particulièrement précautionneuse de la propriété publique.
Bien sûr.
J'ai bondi. Quand j'ai vu l'entièreté de l'exposition, parce qu'il s'agit donc d'une exposition affichée probablement dans tous les établissements de la PHP.
Ah, pas que dans celui-là, d'accord. Dans tous les établissements,
non,
d'accord.
C'est une exposition qui concerne tous les établissements de la PHP, puisque moi-même j'ai pris des photographies de l'ensemble des panneaux.
D'accord.
Il se trouve que un certain nombre d'établissements font l'objet d'un panneau spécifique.
D'accord.
Comme Necker enfant malade, comme Saint-Antoine, comme Corentin Selton, enfin, et manifestement c'est une initiative prise sur l'ensemble de l'institution.
Oui, oui.
Et par conséquent, je présume que dans les hôpitaux, dans l'ensemble des hôpitaux parisiens et de l'ancienne Seine,
oui.
L'exposition est partout affichée. Alors j'y insiste parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'une exposition volontaire. C'est-à-dire que vous déambulez dans les couloirs, comme c'est le cas, ça a été mon cas, puisque j'allais rendre visite à un malade.
Oui, oui.
Donc, évidemment, comme historienne, je vois une exposition sur l'assistance publique sous l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous l'occupation.
Ça attire ton regard.
Bien entendu, je regarde tous les panneaux.
Et oui.
Je cherche, y compris sur le panneau Corentin Selton.
Oui.
Aucune mention de Corentin Selton. Et je dois dire, c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai envoyé à mes amis. À mes amis, je n'ai pas envoyé d'ailleurs tous les panneaux. J'ai envoyé le panneau Corentin Selton. Et parce que j'ai fait mon petit ajout sur un autre panneau,
oui.
Le panneau que j'ai appelé partie manquante, et donc j'ai les deux lignes extrêmement succinctes vraiment que j'avais ajoutées, parce que le scandale est encore beaucoup plus grave que les deux lignes dont j'ai fait état.
Bien sûr.
Je vais en dire deux mots. Et donc, je cherche, je lis, je relis, je ne retrouve pas. Et puis, ailleurs que sur Corentin Celton, je vais mettre mon commentaire.
D'accord.
Et puis, alors, c'est bien simple, sur Corentin Celton, sur lequel il est vrai, j'aurais pu mettre mes deux lignes, mais bon... Sur Corentin Celton, le scandale était d'autant plus grand que le panneau Corentin Celton,
oui,
mentionnait l'héroïsme admirable de médecins et de leurs assistants qui, à l'occasion de bombardements,
oui,
bombardements qui n'étaient pas allemands d'ailleurs en avril 1943, mais qui étaient américains.
Et oui.
Je renvoie d'ailleurs à cet égard à mes travaux sur la Deuxième Guerre mondiale et sur la non-épuration. Je rappelle quand même que ces bombardements absolument inutiles et néfastes du point de vue militaire, qui n'ont touché en aucun cas l'appareil militaire et l'appareil économique allemand, ah, qui ont juste fait des morts parmi les Français.
Oui, raser le Havre, oui, voilà.
Voilà, raser le Havre, faire tomber les bombes en mars 42 sur les ouvriers au travail chez Renault.
Oui,
écoutez,
oui.
C'est très simple. Moi, j'habite dans une localité qui était... très prolétarienne autrefois, qui est devenue une localité, je dirais, enfin, qui s'est alignée sur la banlieue ouest, puisque
bien,
elle est sise entre le Vésinet et Saint-Germain-en-Laye.
Eh oui, bien sûr.
Et c'est extraordinaire, puisque au Bec, le bombardement de mars 1942, qui est simultané du bombardement sur Boulogne-Billancourt, qui était alors une municipalité, je dirais, une ville essentielle, presque totalement ouvrière.
Oui, oui.
Eh bien, dans ma localité, il y a eu des bombardements, tout un quartier populaire rayé de la carte, alors que ni Saint-Germain-en-Laye, ni le Vésinet, strictement voisin, il suffit de regarder une carte, n'ont été touchés par ce type de bombardement.
Tiens, tiens.
Et justement, j'analyse ces bombardements dans l'ouvrage, enfin, dans l'ouvrage dont j'ai parlé. Alors, ce bombardement, donc d'avril 1943, et ces nombreux bombardements qui ont fini par faire 75 000 morts, hein, qui ont ravagé les ports...
Oui. Oui, oui.
Ce bombardement donne lieu à un déploiement d'émotions parce que les médecins et leurs assistants auraient montré un héroïsme extraordinaire en pansant et soignant tous les blessés en avril 1943. Je me suis refrotté les yeux. Comment est-il possible, dans le panneau même sur Corentin Celton,
oui,
sur l'hôpital Corentin Celton, ce qui est devenu l'hôpital Corentin Celton, comment peut-on rendre hommage au travail tout à fait honorable, bien sûr, en 1943, de médecins qui, que je sache, ne s'étaient pas signalés d'ailleurs par leurs prestations antérieures en termes de défense des intérêts nationaux, comment peut-on honorer ce qui relève d'un travail normal, quoique très dévoué, certainement avec un horaire plus grand qu'il n'était, je dirais, légal.
C'est
Mais
fait.
Comment peut-on faire ça sans signaler le rôle de Corentin Celton? Alors, je signale à tous nos auditeurs que Corentin Celton a fait l'objet, ça n'est pas le cas de toutes les fiches, mais là, c'est le cas d'une fiche fort honnête. Et manifestement, ce qui n'est pas toujours le cas, et manifestement tout à fait informé par des archives policières, plutôt sensu.
Oui, oui.
Dans le dictionnaire Métron, il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de fiches fantaisistes hein, qui sont faites avec de l'imprimé.
Oui, oui, mais j'ai lu la fiche Métron, elle est très bien faite. Oui.
Voilà. Elle est très bien faite et on voit très bien que c'est une vraie fiche historique. Or, qu'est-ce qu'établit cette fiche historique qui fait, je trouve, peser sur la PHP une responsabilité historique, mémorielle, puisque ces messieurs, dames nous farcissent la tête depuis 30 ans avec la mémoire. Qu'est-ce qui est particulièrement scandaleux? C'est que si j'ai utilisé le terme de héros, en l'occurrence de héros communistes, c'est que, je dirais, il y a motif et même motif officiel. C'est-à-dire que Corentin Celton, d'après sa fiche, je signale, numérique et par conséquent consultable, il suffit de taper Corentin Celton, dictionnaire
Métron, pas de problème.
Nos auditeurs verront tout de suite la fiche. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que ce militant, très jeune militant, puisque il est le fils d'une ouvrière sardinière de Douarnenez, qui est une des héroïnes, je dirais, de la grève la plus célèbre des femmes, la plus grande, la première grande grève des femmes,
qui est
celle de 1923, des sardinières de Douarnenez, et dont le père est mort, je crois, pendant la Première Guerre mondiale. Donc Corentin devient un militant de première grandeur, devient l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler infirmier. On appelle ça préposé parce que pendant la Première Guerre mondiale, ce sont les femmes qui ont en quelque sorte monopolisé le titre d'infirmière, mais disons qu'il était infirmier brancardier.
D'accord.
Et donc, il se trouve que, après avoir été embauché à l'hôpital Saint-Antoine, c'est donc ce héros, il a parcouru au moins deux hôpitaux.
Oui.
Il milite à Saint-Antoine, je ne vais pas raconter toute sa vie militante, et il est affecté à un moment donné à ce qui est l'hospice devenu ensuite hôpital Corentin Celton, l'office des petits ménages à Issy-les-Moulineaux. Et il se trouve que, toujours dans sa fonction d'infirmier brancardier, en juin 1940, dans une conjoncture de trahison des élites civiles et militaires que j'ai décrite dans un ouvrage qui s'appelle « Le choix de la défaite » et dans Dominique Avichy, donc dans cette occurrence, alors même que les chefs militaires abandonnent le combat, empêchent même le combat, il se trouve que, appelé à l'évacuation d'une des zones, sous le feu des Allemands, il sauve un grand nombre de personnes.
Oui.
Il manque d'être tué, au point que, en juin 1940, il est cité à l'ordre de son régiment et reçoit la croix militaire.
Rien que
c'est
ça.
C'est une croix militaire de juin 1940.
Une des dernières, certainement.
Vous l'écoutez tout de même.
Oui, oui, sûrement.
Des croix militaires légitimes. De juin 1940.
Tout à fait.
Il n'y en a pas beaucoup dans la haute hiérarchie. Enfin, si, c'est vrai que Vichy a distribué les médailles, mais je parle des médailles qui ont été en quelque sorte motivées par une action établie. Donc, il a donc une médaille militaire. Et puis, ce militant, connu, très connu, puisqu'il a des responsabilités politiques,
oui, oui.
En 1941, même en 1940 d'ailleurs, est harponné par la police française,
oui.
Devenu allié privilégié des forces de police allemandes.
Oui.
Donc, il est mis en prison.
Oui.
Sa croix militaire ne pèse pour rien. On imagine qu'elle n'impressionne pas beaucoup ceux qui ont vendu leur pays à l'encan. Donc, Il est frappé par les mesures frappant les communistes depuis le décret d'Aladier du 26 septembre 1939.
Bien sûr.
Il est mis en prison.
Oui.
En 1941.
Oui.
Et en prison, donc depuis 1941, il est livré, ce qui est le cas de beaucoup de militants communistes, hein, qui ont été livrés soit comme otage, soit à divers titres.
Ouais, ouais, ouais.
Et en tant que communiste, il faut le dire, jusqu'en 1944 et jusqu'au bout, au titre du décret d'Aladier
ouais.
Du 26 septembre 1940, il est livré par la police française, allié privilégié de ce qu'on appelle la Gestapo, c'est-à-dire du ZIPO SD,
oui.
Des forces de police établies à Paris et ailleurs, mais en l'occurrence, évidemment, à l'administration militaire de Paris. Il est donc livré à la Wehrmacht, je dis bien à la Wehrmacht, parce que quelquefois il est indiqué... on laisserait entendre que c'est éventuellement OSS, pas du tout, puisqu'il est livré et qu'il est versé au Mont-Valérien, emmené au Mont-Valérien, et comme chacun le sait, devrait le savoir, le Mont-Valérien, il n'est pas géré par la SS, il est régi par la Wehrmacht.
D'accord.
Donc, en décembre 1943, remis comme il est d'usage par la police française aux Allemands, à l'occupant allemand, Orentin Selton est fusillé au Mont Valérien. Comment est-il possible? Alors, je renvoie à l'affiche, bien documentée,
oui.
Comment est-il possible qu'on ait pu établir un dossier pareil,
oui.
Non seulement en règle générale, pour l'ensemble des hôpitaux dépendants de la PHP, mais je dirais concernant a fortiori
l'hôpital
en question, c'est-à-dire Corentin Selton,
qui porte son nom,
est possible que le service des archives manque à un devoir aussi élémentaire. Alors, il se trouve que, voilà, puisque évidemment mon sort n'est pas important, ce qui est important. C'est évidemment ce que mon sort révèle.
Bien sûr.
C'est-à-dire que je reçois dans les jours suivants, si j'ose dire, donc je vois ça fin mai, la personne ayant été opérée, voilà, peu avant, on m'envoie dans la chambre du malade, on m'envoie un représentant... manifeste de la sécurité,
oui, oui.
Avec toute l'arrogance qu'on peut imaginer,
oh
qui explique d'ailleurs que le malade est fait de l'humour, je dirais bien appliqué, en me disant que celui-là, responsable de la sécurité, il aurait été plutôt du côté des fusilleurs que des fusillés.
Ah.
Ce monsieur tape à la porte,
oh là là.
Me dit sur un ton qui fait quasiment penser... gendarme dans Guignol,
oui, oui.
Il veut me voir tout de suite. Il sort de la chambre, je vais le voir. Impossible même de placer un mot.
Ah oui,
vous avez porté atteinte à un document public, etc. Je lui dis, mais monsieur, comment pouvez-vous me dire ça? C'est une exposition... sur l'histoire et la mémoire des hôpitaux de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, oui.
Alors, impossible de parler. Je lui dis, vous me laissez parler. Ah non, vous avez juste, porté atteinte à un document public qui vous sera, dont le coût, dont le remboursement vous sera facturé.
Incroyable.
Et un mois après...
Incroyable.
Je reçois ces jours-ci, quatre semaines après, je reçois un avis de la directrice juridique des hôpitaux de Paris,
oui.
Et qui m'explique que, voilà, avec la grave atteinte
à l'intégrité,
l'exposition publique dont je me suis rendu coupable, je vais devoir payer dans les meilleurs délais, sauf évidemment à poursuite pénale.
Oui, oui, pénale. Ouais, bien sûr, on connaît.
Je vais devoir payer un remboursement d'affiche de 84 euros. Alors, c'est très intéressant, parce que pourquoi l'ai-je fait ? Je l'ai fait, évidemment, d'ailleurs, j'aurais pu mettre un petit papillon.
Oui, oui.
Un petit papillon.
Il ne serait pas resté.
Enfin, vous connaissez des gens qui, allant visiter un malade à l'hôpital, se munissent du scotch, petit papillon.
Non, on ne pense pas à ça.
Je ne pouvais pas. Et surtout, même si je l'avais pu, si j'avais collé un petit papillon, le responsable de la sécurité qui m'aurait volontiers mise au trou d'emblée, l'aurait enlevé tout de suite.
Tout de suite, bien sûr,
ça serait pas... quelques jours.
Ah, ouais. Magnifique.
Ils ne s'en sont pas aperçus tout de suite. Tout...
Alors, quel outil...
Ça a duré quelques jours.
Quel outil tu as utilisé,
Lille? Oui. De quoi étais-je persuadée? Que, bien entendu, il fallait faire quelque chose d'un minimum mobilisateur. Mobilisateur, c'est au sens qu'avaient mes deux lignes, c'est-à-dire... Et rien sur Corentin Selleton,
c'est
héros,
tout.
C'est-à-dire, allez-vous,
osez-vous,
les responsables de l'exposition,
osez-vous,
allez-vous vous décider à faire une exposition qui respecte ce minimum de quand même, surtout sur une affiche consacrée à Corentin Selleton,
oui, quand
qui
même.
Respecte le minimum de décence.
Quand même.
Eh bien non. J'ai reçu une lettre, je dois dire fort courtoise, parce que
quand même.
Je me dis que c'est tout de même
quand
pour
même.
Toi, m'expliquant que j'avais porté atteinte à un document public et que je devais rembourser dans le meilleur délai.
Exactement.
Mais on le remarquera, ces expositions sont organisées par les institutions publiques
ben oui.
pour honorer ce dont, je le disais, on nous parle depuis si longtemps, c'est-à-dire le fameux devoir de mémoire.
Oui, oui, oui.
Et devoir de mémoire de quoi ? C'est-à-dire que je suis supposé payer mes 84 euros, au terme de ce paiement, rien n'aura été modifié, et je dois dire, comme j'ai adressé à la directrice juridique une réponse documentée sur les raisons pour lesquelles j'avais procédé à cette petite notification,
oui, oui, oui.
Cette dame m'a fait observer que en 2023,
oui.
le service des archives avait consacré une exposition, une partie d'exposition à Corentin Selleton.
Ah bon ? Et ils avaient oublié ? Et alors ?
Il ne s'agit pas du tout de la même chose, puisqu'il s'agit d'une exposition qui est affichée en 2025, en mai-juin 2025, jusqu'à je ne sais quelle date,
ouais.
qui n'est au surplus pas, qui ne relève pas d'une démarche volontaire. Vous n'allez pas aux archives de la PHP pour aller voir l'exposition, elle vous est en quelque sorte... imposé de fait parce que vous passez devant ces panneaux.
Dans tous les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux.
Je suis supposé payer cette amende alors même que aucun visiteur, pour ne pas parler évidemment d'autres Français que les visiteurs de Corentin Selleton ou les visiteurs des hôpitaux de la PHP, aucun visiteur ne sera informé du très grave manquement historique et civique qui a été infligé à un des héros de la Résistance, un de ces héros qui figure parmi les personnages les plus importants de mon ouvrage sur la non-épuration. Voilà, en quelque sorte, pourquoi j'ai protesté, pourquoi je trouve complètement ahurissant de me trouver en position de coupable.
Oui, exactement.
Sachant que, je m'en félicite, un de mes collègues un de mes collègues sociologues,
oui,
qui a envoyé ça, qui a envoyé l'échange à ses enfants,
oui,
compte parmi ses enfants une fille avocate,
oui,
et que cette fille avocate, scandalisée,
oui,
a envoyé à la directrice juridique de l'APHP,
oui, oui,
une lettre, ma foi, dont nous attendons à cette date les suites.
Très bien.
Il faut souligner ce qui est l'extraordinaire hypocrisie d'institutions qui passent leur temps à faire valoir l'hommage qu'elles rendent à la mémoire,
oui,
le scandale que constitue d'une part le manquement de l'exposition,
eh oui,
d'autre part l'incrimination contre une historienne spécialiste. Il se trouve, voilà, que je ne connais pas trop mal la Deuxième Guerre mondiale.
Et oui, c'est le moins con.
Et le mouvement ouvrier.
Bien sûr.
Et qui inflige à une historienne qui a eu l'honnêteté, je le signale, évidemment, de se présenter.
Oui.
Alors, j'aurais pu faire ces deux lignes, oui, de manière anonyme.
Bien sûr, bien sûr.
Juste pour, en quelque sorte, informer
le public,
visiteurs,
oui, bien sûr,
qui regarderaient les panneaux. Mais non, je ne l'ai pas fait. J'ai mis mon nom, mon titre,
bien,
oui, et par conséquent, j'étais immédiatement identifiable.
Tout à fait.
Et j'ai été immédiatement identifié.
De la façon qu'on sait.
Donc, oui, bien sûr, le monde s'écroule, nous sommes sous menace d'embrasement nucléaire à cause d'une politique qui a écrasé les peuples, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global.
Oui.
Mais tout de même, est-ce qu'il est supportable de faire semblant d'honorer l'histoire et la mémoire quand on leur inflige des violations de ce type?
Non, 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 c'est tout. Non, évidemment non. Voilà. Donc tu as bien fait.
Voilà, je pense.
Tu as bien fait, bravo.
Ce que il est licite de dire à des gens de bonne foi.
Bien sûr.
Et bien entendu, le cas échéant, Je vous tiendrai au courant des suites,
voilà, et de l'intervention de l'avocate.
Allô?
Allô, allô, oui, c'est très bien, merci beaucoup, tu as parfaitement éclairé le sujet.
Voilà, on a fini par y arriver. Alors, on va revenir à notre sujet. Donc, on en était toujours dans les affaires du Sud global, comme elle dit, mais plus précisément de l'Asie occidentale, puisque c'est comme ça qu'on devrait appeler maintenant le Moyen-Orient. Mmh. Donc, je reviens à cette journée du 12 où, effectivement, l'Agence internationale de l'énergie atomique, sous pression des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, dit que l'Iran est à quelques, je sais pas quoi, encablures, quelques jours de la bombe atomique, ce qui est évidemment faux. Et donc, à partir de ce moment-là, se déclenche l'opération qui était prête. Je redis ce que je dis. Il n'était pas possible, dans la nuit du 12 au 13, de fabriquer une opération telle que celle qu'on a vue, c'est-à-dire la décapitation, l'assassinat donc de dirigeants iraniens en nombre dans leur lit, avec leur famille, pendant leur repos, la cyberattaque sur le système de défense aérienne, tout ça, c'était pas possible. C'était prêt, avec en plus un accord évident des États-Unis pour faire ça. Voilà. Alors ça a eu lieu. Il se trouve que, comme la direction a été... Enfin, l'Iran n'a pas été décapité, l'Iran a bien réagi, la population a bien réagi, il y a eu des manifestations de masse contre cette attaque, non provoqué, puisqu'effectivement, l'Iran n'avait rien fait. Bon. Et donc, à ce moment-là, le régime a mis en place ce qu'il avait préparé, c'est-à-dire continuer et même augmenter les attaques contre Israël. Et les attaques contre Israël ont été de plus en plus spectaculaires au cours des jours suivants. Salve après salve de différents types de drones, de différents types de missiles, des lents, des rapides, etc. Avec des salves très très bien coordonnées, c'est-à-dire que, sans faire de détails militaires, mais vous envoyez quelques petits missiles qui mettent en alerte la défense aérienne, qui tirent sur tout ce qu'elle voit, et puis en fait, vous épuisez les munitions du système de défense, et quand vous voyez que tout le système de défense a tiré tout ce qu'il avait de près, vous envoyez les autres missiles qui, eux, vont passer.
Bon. Heureusement donc, que l'Amérique a barré pas mal de systèmes de défense.
Voilà, en plus, avec des ailes l'Amérique, les États-Unis, depuis la Jordanie en particulier, probablement aussi depuis Chypre, les Anglais, ils ont réussi à en arrêter un certain nombre. Mais en fait, toujours est-il que le dôme de fer, la conclusion, le dôme de fer israélien est percé par l'Iran. Et à partir de ce moment-là, la panique s'empare du camp sionno-israélien impérialiste. Alors, j'insiste là-dessus parce que ce que ces événements démontrent, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les intérêts sionistes et de l'autre côté les intérêts des États-Unis. C'est exactement la même chose. C'est le même pouvoir avec les mêmes lectures des événements. Et on a tendance à nous faire croire qu'Israël est un gouvernement séparé. Israël n'est pas un gouvernement séparé. Le sionisme est un tout mondial dans lequel les États-Unis sont installés. Ouais. Alors les États-Unis sont tenus par leur taille, par leurs contraintes un peu institutionnelles, à ne pas pouvoir faire n'importe quoi, n'importe où, et puis ils essayent un peu de donner le change. Donc le gros du travail est fait par le Mossad et les Israéliens, mais c'est la même boutique, j'allais dire. Il faut arrêter. Moi, je refuse désormais le débat pour savoir si c'est Israël qui donne des ordres aux États-Unis ou les États-Unis qui sont... C'est la même chose. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui. Ceux qui décident, in fine, c'est pas Trump, ceux qui, in fine, décident à Washington sont ceux qui décident, in fine, de ce qui se passe à Tel Aviv. Il faut arrêter ces débats sans fin sur qui c'est qui a commencé. C'est pas là. C'est le système sioniste impérialiste qui est un bloc.
Ah, oui.
Et auquel, malheureusement, la France, la Grande-Bretagne, voilà, comme des imbéciles, s'associent. Bon, ça, c'est un autre problème. C'est notre problème, ça. Mais quand on n'a pas dépassé cette lecture de qui a commencé, qui c'est, est-ce que Netanyahou ceci, est-ce que c'est Trump cela et tout, c'est pas ça le problème. Ni Trump, ni les sénateurs, ni Pierre, Paul et Jacques, c'est pas ça. Il y a aux États-Unis un groupe qui décide de tout, y compris de ce que vont faire les présidents, les secrétaires d'État, les ministres de la Défense, et c'est le même groupe qui intervient à Tel Aviv. C'est ça. Il y a une unité de commandement, une unité de conception du monde sioniste impérial. C'est ça que ces événements démontrent. On va dire, c'est nouveau, on ne le disait pas. Mais c'est ça la conclusion. Il n'y a pas d'autre conclusion possible. D'autres conclusions. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est qu'au moment où la riposte iranienne sur Israël devient trop forte et fait des dégâts, la raffinerie de Haïfa, les services secrets eux-mêmes, les centres des services secrets du Mossad, le gaz, voilà. Au moment où effectivement Israël souffre de l'attaque iranienne, qu'est-ce que fait Israël ? Il crie « Maman, Bobo !» Il crie, je dis ça comme ça, « Maman, Bobo !» Il écrit « C'est pas possible, j'y arrive pas !» C'est-à-dire, alors, mesurez l'horreur du propos. C'est-à-dire quand moi, gouvernement d'Israël, je décide de massacrer menu des milliers, des dizaines de milliers de Palestiniens sans défense, ou avec une petite défense, mais hors de proportion avec la machine de guerre israélienne. Quand je décide de faire ça, c'est ma partie du travail. Et quand ça devient sérieux, que j'ai affaire à des attaques de missiles et tout par une puissance qui s'est préparée et qui sait ce qu'elle fait, je me jette dans les bras de papa. « Papa, au secours !» Et qu'est-ce que fait papa ? Papa arrive, parce que c'est là qu'il y a une... Ça n'a pas pris 25 ans, ils n'ont pas négocié. C'est la même chose. C'est-à-dire que...
papa, c'est surtout l'objectif, c'est changement de régime.
Voilà. Et papa,
vraiment,
il veut...
Ouais. Papa, il voulait à tout prix, papa, changer le régime.
Alors, pourquoi papa, il veut changer le régime ? Parce qu'il a bien compris. Il pensait que les choses étaient presque mûres, puisque la Syrie était tombée. Donc l'opposant officiel, le seul opposant arabe, était tombé. Il n'y avait plus. Israël avait avancé vers le nord, avait pris une partie de la Syrie. La Jordanie était totalement contrôlée. Les Égyptiens.
L'Irak avait des bases aussi.
Voilà.
Bon.
Voilà. Les Égyptiens avaient montré avec l'arrivée de la marche qui n'était pas vraiment du côté des Palestiniens. Enfin, il n'y avait plus personne. Et c'était le moment d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'Iran, qui est le cauchemar des États-Unis. Pas parce qu'il a la bombe atomique, il ne l'a pas.
Non.
Parce qu'il est l'opposant, le seul opposant à la politique de terre brûlée voulue par l'Empire. Et pas que par Netanyahou. Netanyahou n'est qu'un agent de la politique impériale. Que ce soit, les choses soient claires. Il n'y a qu'une politique impériale, il n'y en a pas deux. Hein. Et dans cet endroit-là du monde, c'est Netanyahou qui l'applique. Et quand Netanyahou, je redis, quand Netanyahou a des soucis, il dit « Papa, au secours hein. !» Et papa arrive... Tout de suite, papa arrive tout de suite, et de la façon qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il arrive tout de suite, et il est obligé de mettre en place un énorme spectacle. Et je vais m'arrêter sur ce spectacle, parce qu'on nous a dit, alors, tout a été cassé, tout cassé, a été oblitéré, ouais. Il ne reste rien, etc. Bon, alors il faut savoir, premièrement, que les Iraniens savaient à qui ils avaient affaire et qu'ils ont pris des précautions. Et que, donc une partie du matériel, même pratiquement tout le matériel sensible qui était dans les installations qui ont été attaquées, n'y était plus. Bon, parce qu'ils avaient vu, ils avaient compris comment ça se passait. Bon, n'y était plus. Et donc, en fait, ils ont monté une opération qui a été assez bien montée militairement. Et c'est pour ça que Trump s'est permis de dire « Nous avons la meilleure armée du monde ». C'est-à-dire qu'après avoir fait diversion... Je précise parce qu'il s'agit des fameux bombardiers furtifs B2, qui sont des bombardiers à $1 milliard pièce. Ah. Ils n'en ont pas 250, ils en ont une vingtaine à tout casser. Hein. Là, ils en ont sorti 7. Hein. Bon, c'est beaucoup, mais ils ont les moyens financiers. Bon, ils en ont sorti 7. Et au lieu de les faire attaquer, parce qu'on avait dit quelques jours avant, c'était ça la ruse, bravo, ils sont même capables de ruse, hein, pourquoi pas les militaires américains, dire ça viendrait de Guam, donc, qui est une île donc, au large du Japon, où il y a des B2, ça viendrait de Diego Garza, où il pourrait y avoir des B2 et tout. Ils ne l'ont pas fait. Alors, ils ne l'ont pas fait, à mon avis, pour deux raisons. La raison, effectivement, il s'agissait de tromper, c'est-à-dire de mettre la vigilance des Chinois et des Russes sur Guam et sur Diego Garcia, dans la partie asiatique, disons, et éviter qu'ils regardent du côté de l'Atlantique. Et effectivement, c'est ce qui apparemment s'est passé, c'est-à-dire que les 7 bombardiers qui sont partis du Missouri ont traversé l'Atlantique, sont passés en Espagne, ou dessus l'Espagne, où probablement ils ont été ravitaillés en vol. D'ailleurs, il y a en Espagne maintenant un courant disant au président, au Premier ministre Sanchez, maintenant ça suffit de tenir la main aux États-Unis. Hein, bon, ça on en reparlera. Et puis ils ont continué leur chemin pour arriver jusqu'à l'Iran. Qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Ils ont lâché les fameuses bombes, qui sont... Alors, il s'agit des bombes de 14 tonnes, donc il n'en porte que 2 à tout casser, chacun de ces avions. Il n'en a pas des quantités. De toute façon, les stocks sont petits, là aussi. Il s'agit d'un matériel extrêmement cher, fabriqué en un petit nombre. Et les cas d'utilisation sont rares. Il y a eu un cas en Afghanistan, je crois. Je crois qu'ils en ont utilisé une ou deux fois dans la guerre de Yougoslavie, dans les bombardements en 1999. Il faut savoir que les fameux B2 là, avaient été utilisés aussi contre Belgrade. Bon. Et donc il s'agit d'un matériel très très peu nombreux. Je veux dire, en tout, une vingtaine de B2 en tout cassé. Quelques dizaines, et certainement pas beaucoup plus, peut-être 2 dizaines de fameuses bombes à pénétration. Et donc il s'agissait de montrer qu'il y avait une puissance de frappe formidable. En fait, ils ne sont pas capables de renouveler ça 3 fois. Ils l'ont fait une fois pour la galerie, pour montrer, pour se faire plaisir. Alors regardez, nous sommes, et c'est ce qu'a dit Trump, nous sommes la meilleure armée du monde. On a réussi à attaquer l'Iran. Bon, ils ne pourront plus.
À combien d'altitude les avions furtifs ?
Ils montent assez haut, mais ils ne vont pas vite.
Ils montent tellement haut avec ces bombes, avec l'accélération, le pesanteur,
tout à fait. Oui, ils ne montent pas très haut, mais ils ne vont pas très vite. Hein. Ils ne passent pas le mur du son et tout. Donc il aura fallu, je crois, une trentaine d'heures pour faire le vol, avec probablement des ravitaillements. On n'a pas su le détail, mais enfin, ça a permis au département de la Défense de faire une espèce de communiqué du corps. On a regardé ce que notre armée est en train de faire. Alors, ce qui a pu jouer, à mon avis aussi, et c'est pour ça que le leurre de Guam et de Diego Garza avait du sens, c'est que je pense que les services de surveillance satellitaire de la Russie, a un autre système hein, qui s'appelle GLONASS, et les Chinois ont un système de surveillance qui s'appelle Baidu. Et dans la mesure, effectivement, ils devaient plutôt surveiller le côté asiatique, ils n'ont pas dû regarder côté Atlantique. C'est-à-dire qu'une flotte de satellites, il faut voir que ça se manipule, on peut les positionner à un endroit à un autre, leur dire de regarder ici plutôt que de regarder là. Je pense qu'ils n'ont pas vu... Ils n'ont pas vu venir le côté atlantique. Donc c'est les États-Unis, c'est des États-Unis du Missouri, donc de son parti, les bombardiers. Voilà la genèse de l'opération. Après, cette genèse de l'opération étant faite, ils ne peuvent pas la renouveler. Ce n'est pas possible. Ils peuvent d'autant moins la renouveler que l'Iran continue à réagir sur Israël. C'est-à-dire l'Iran fait comme s'il ne s'était rien passé et le dit d'ailleurs, nous sommes toujours là et nous continuons à attaquer Israël. Et on en arrive à ce qui s'est passé. Alors là, on est à aujourd'hui, hier, où effectivement, Trump dit, moi j'ai fait mon cinéma, enfin il le dit, je le dis à sa place, moi j'ai fait mon cinéma avec mes bombardiers, ma grosse bombe de 14 tonnes, mais je ne peux pas faire ça tous les matins. Hein. Et en plus, j'ai prévenu avant, il le dit. Et ce que font les Iraniens, il dit, écoutez, si vous le prenez comme ça, vous m'attaquez, vous, États-Unis, là, c'est vous, États-Unis, c'est pas Netanyahou, c'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est vous, et vous vous en vantez. Alors, si c'est vous qui m'attaquez, eh bien, je réponds. Ouais. Ce qu'ils ont fait, donc, en attaquant la grande base américaine, donc, qui est dans le golfe Persique, sur le territoire du Qatar, qui s'appelle Al Udeid.
Bon. Ouais, Al-Udeid, ouais.
Voilà. Alors, ils l'ont fait. Ils ont prévenu les Qataris. On savait que les États-Unis avaient évacué pratiquement tous leurs avions de cette zone-là. Ouais. Donc il n'y a pas eu de casse. Simplement, ils ont démontré qu'ils pouvaient aussi envoyer des missiles n'importe où.
Ça.
Et là, ça devient très, très intéressant. D'une part, ils sont capables de le faire. C'est arrivé. C'est-à-dire il n'y a pas eu possibilité d'empêcher les missiles iraniens d'arriver à destination, même s'ils ne visaient pas à détruire quoi que ce soit, hein, parce que de toute façon, il ne restait pratiquement plus d'avions états-uniens ni britanniques sur le terrain, ni de l'OTAN. Il n'y avait plus rien. Donc il n'y a rien à casser. Mais ce n'était pas le but de la manœuvre. C'est-à-dire, là où nous décidons d'attaquer, nous attaquons et nos missiles arrivent à destination. C'est la leçon. Voilà, la leçon, elle est très simple. Et la leçon, elle est tellement simple que qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, c'est que Trump a dit « On arrête tout. On. » Alors, ça veut dire « Moi, Netanyahou, parce que Netanyahou m'obéit, parce que c'est la même direction, la direction impériale sioniste décide d'arrêter les frais, parce qu'elle n'arrive à rien et parce que l'Iran tient le choc. » C'est ça. Bon, ça, c'est très, très important. C'est là où on se trouve aujourd'hui. Alors, je ne vais pas verser une larme sur la stupidité de la France qui s'est livrée à ses comédies à l'Institut, à l'AIEA. Je veux simplement souligner quand même que M. Grossi, directeur de l'AIEA, s'est livré quand même à cette gesticulation avant, parce qu'il l'a fait sur ordre, évidemment, sur ordre donc de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, mais qu'après, M. Grossi, ils sont en train d'essayer de le sauver. Et on le fait parler. Alors maintenant, il parle à la télévision. On veut dire, voilà. Non, on n'avait aucune indication sur la bombe atomique. Mais enfin, il vaut mieux être prudent, etc. Il est obligé de se refaire une vertu parce que c'est un menteur et un manipulateur. Je l'ai dit parce qu'il s'est avéré être tel pendant toute la guerre d'Ukraine, où il a raconté des sottises sur les centrales nucléaires. Alors, un mot sur les centrales nucléaires, parce qu'il faut en parler. Il y a trois centrales nucléaires, trois groupes, comme on dit, russes qui sont sur la côte du golfe Persique côté iranien, à Bouchir. La semaine dernière, à je ne sais quelle occasion, Poutine a pris la parole en disant « Nous avons 200 personnes russes de l'organisme atomique qui sont là. Nous allons monter l'effectif à 600. La centrale est protégée. » Ce qui voulait dire à M. Trump « T'avises pas de venir par là, parce que là, c'est chez nous. Hein, c'est nos techniciens. C'est notre installation. Donc c'est nous qui allons tirer. » Et d'ailleurs, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait comme quoi ce message-là est passé. Bon. Ça, c'est très, très important à signaler. La suite est très, très intéressante. C'est comment réagissent les pays de la région à cette attaque de la base Al Udeid. Donc, il n'y avait pas de victimes, je précise, pas de risque. C'était juste c'était un tir de semonce. On est capable de faire ça. On est capable de taper sur vos aéroports. Bon. Et donc, la suite, c'est très intéressant, c'est l'analyse des réactions des gouvernements alentours. Et alors là, je dois dire que les gouvernements des pays arabes sont lamentables. Lamentables. Ils en sont viol de la souveraineté, machin.
Inexistant.
Ils font comme si l'Iran n'avait pas été attaqué par les États-Unis, par Israël, etc. Ils disent « Ah, vous avez attaqué un État souverain que vous avez prévenu, vous avez tué personne, etc. » Ça, ils ne veulent pas le savoir. Et donc, les voilà tous montés sur leurs grands chevaux du droit international. Ils sont en train de se déconsidérer. Je pense que leur caractère lamentable, c'est-à-dire
minable,
fait qu'ils ouvrent la porte à une espèce, j'espère, une émancipation des peuples de ces pays-là qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces gouvernements-là » qu'est-ce que c'est ? Qui ne font rien. Le gouvernement égyptien qui a interdit les marches, le gouvernement jordanien qui tire à vue, tout ça, les Saoudiens qui sont ambigus, voilà. Il reste personne. Même l'Algérie, entre deux, un ton moyen, c'est quand même regretté. Bon, donc on a affaire.
Sans plus, voilà.
On a affaire donc à les masques qui tombent, ces gouvernements arabes sont de mauvais représentants de la population arabe, sont des gouvernements qui rendent ridicule le monde arabe, et ça touche la totalité des Arabes du monde, les gouvernements qui sont à la tête.
Ils n'ont jamais, depuis des années, ils n'existent pas.
Bon. Et le seul qui tenait le coup, c'était le gouvernement syrien, on l'a fait tomber. Et à quel prix d'ailleurs, hein ? Et à quel prix pour la souffrance du peuple syrien qui allait avec. Bon, voilà. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est pas nous, Français ici, qui, dans la tranquillité de ce studio, allons dire au peuple arabe, ouvrez les yeux. Ouais. Je pense que les yeux sont ouverts. Maintenant, il faut qu'ils se donnent les moyens de dire, ces gouvernements-là ne nous représentent pas et nous ridiculisent. Ce sont les laquais de l'impérialisme. Ils sont là. Juste pour faire joli.
Depuis la naissance du prophète, au départ en 600 et quelques,
voilà.
Il a dit dans le Coran, « Lis au nom de ton Dieu, essaye d'attaquer la science et tout. »
Voilà, et effectivement, et ça a apporté des fruits. Ouais. Enfin, des Omeyyades et des Abbassides, la science arabe était en avance sur le reste du monde.
Voilà.
Hein. Mais ils n'étaient pas gouvernés par des oiseaux pareils. Voilà. Hein. Par des petits Abdallah et des petits... Voilà. Donc, c'est ça, alors, je le dis, enfin, je le livre à la réflexion du monde arabe et des peuples arabes. C'est vous, maintenant, d'ouvrir les yeux et de vous doter de gouvernements respectables et qui doivent se faire respecter. Et pour sortir de ce face-à-face où vous êtes toujours trahis par des gouvernants qui tombent finalement toujours du côté de l'impérialisme sioniste. Qui leur vendent des armes, qui leur fassent la main dans le dos, etc. Bon, c'est ça, alors... On en arrive aux enseignements. Alors les enseignements, je ne sais pas si tu partages, mais ils sont là très très clairement. D'une part, le sionisme impérialiste, c'est un bloc. Quand on touche Israël, on touche directement Trump et vice-versa. Et quand Israël est débordé, c'est l'autre qui fait le travail.
Ça a toujours été.
Voilà. Mais là c'était flagrant.
Comme tu as dit au départ, ça a toujours été.
C'était flagrant, ça s'est fait dans les quelques jours. Pour ça, on a une espèce de contraction de l'histoire. En quelques jours, on a tout compris. C'est-à-dire Israël n'existe que pour massacrer des Palestiniens sans défense et bien incapable de mener une guerre contre quelqu'un.
Jusqu'aujourd'hui.
Jusqu'aujourd'hui.
Voilà. Une cinquantaine de morts déjà.
Voilà. Ils continuent. Parce que là, on les laisse faire, on continue à leur donner des moyens. Voilà. Ça continue. Bon, c'est ça qu'il faut arrêter. Parce que le cessez-le-feu annoncé, décidé par Trump, qui est le patron de l'impérialo-sionisme, c'est un cessez-le-feu vis-à-vis de l'Iran. C'est pas un cessez-le-feu à Gaza.
Non. Hein.
C'est là que ça se joue.
On va voir, espérons-le, voilà. Ça s'y joue.
C'est là que ça se joue. Parce qu'il y a un moment donné, il faudra réformer. Parce que ce à quoi on assiste là, c'est une séquence qui a commencé le 7 octobre. Cette séquence-là, c'est-à-dire la révolte des Palestiniens de Gaza. C'est ça, le 7 octobre. Ça, les Palestiniens de Gaza
la
disent...
La résistance.
Voilà. On en a assez de ce que vous nous avez fait souffrir. Maintenant, on n'en peut plus. Hein, on sort de la prison. Bon, c'est ça qui a déclenché toute la suite. La chute de la Syrie, tous les autres événements, ça s'est passé là. Les attaques du Hezbollah, tout est venu de là. Les attaques des Houthis, etc., qui vont certainement reprendre. Tout ça a démarré là. Donc, moi, je tire un coup de chapeau aux Palestiniens. C'est vous qui avez mis le feu.
C'est un grand peuple.
Vous avez bien fait de le faire. Vous êtes la fraction la plus évoluée et en même temps la plus douloureuse, la plus souffrante des peuples arabes. Montrez-leur le chemin. Il faut que d'autres suivent, que vous ne soyez pas les seuls à avoir 50, 100 morts tous les jours. Hein.
Ouais.
C'est ça les chemins qui s'ouvrent. Donc cette semaine, pour ça, est extrêmement riche en enseignements politiques globaux.
Je voulais ajouter tout simplement,
dis-nous.
Quand tout le peuple iranien est sorti
dans les rues.
Il ne faut pas oublier que l'opposition
aussi
les a rejoints.
Parce que, on n'a pas développé là-dessus, mais effectivement, les États-Unis, avec le Mossad sur place, etc., ont passé leur temps, depuis la révolution islamique, depuis 1979, où je rappelle, le gouvernement du Shah était un gouvernement des États-Unis, un gouvernement féroce, qui a fait une répression épouvantable. Et donc, en fait, on est anti-États-Unien depuis cette époque-là en Iran, mais les États-Unis n'ont pas arrêté d'essayer de trouver une opposition beaucoup plus souple. Ils en ont trouvé. On a trouvé des gens comme l'ayatollah Rafsanjani, qui est par exemple le roi de la pistache mondiale, qui était un pro-américain manifeste. Il a quand même été élu président de la République islamique. Il y en a eu d'autres. Hein. Par contre, il y en a eu un qui s'appelait Mahmoud Ahmadinejad, qui lui avait été très très clair sur le fait que le sionisme, c'était les États-Unis, c'était la même chose et la même maladie. Lui, il a été barré. On ne l'a pas représenté à des élections, etc. Hein. Donc, effectivement, l'intervention permanente des services secrets, des agences de publicité, du Mossad, sur la situation politique interne à l'Iran a été constante, constante pour essayer de trouver ceux qui pourraient arrêter de se défendre. Hein. Et on ne sait pas.
Je crois que Bernard, on aura de plus en plus des éclaircissements.
Hein. Mais oui, forcément. Ouais. Et je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas encore pourquoi le président Raïssi est mort et de quoi.
Oui.
Mais aussi bien, peut-être, était-il...
Et surtout son ministre des Affaires étrangères, voilà, qui est très connu, d'ailleurs.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il faut savoir que les fluctuations de la politique iranienne, que ne cachait pas le fait que le guide suprême, il n'y en a eu que deux, il n'y a eu que Khomeini et Khamenei maintenant, mais le fait qu'en dessous, il y avait du mouvement, et que dans ce mouvement, les États-Unis essayaient d'intervenir pour que ça tombe toujours dans leur sens à eux. C'est ça qui est raté avec leur opération, et c'est pour ça que Trump dit « Oh, on arrête tout, parce que là, j'ai perdu les moyens, je ne peux plus rien faire ». Voilà, donc, immensité des enseignements de cette semaine, hein, où tous les événements qui ont plus... Enfin, la chute du Shah, c'est 79, donc l'histoire...
Ouais, ce que je voudrais dire, vas-y, Bernard, dis-le. La position de la Russie, oui, de la Chine... Et voilà. Le Pakistan, qu'on n'en a pas.
Non, alors, on peut dire, oui, qu'elle. Non, il est clair que d'une part, ce qu'a fait la Chine, c'est qu'elle a mis en œuvre l'organisation de coopération de Shanghai, qui comprend la Russie. Elle ne l'a pas trop mise en avant, mais il y a la Russie dedans, qui est une association de toutes les républiques, physiquement, géographiquement, entre la Chine et l'Iran, sur lesquels tout peut se passer, c'est-à-dire on peut faire circuler des trains, on peut faire circuler des avions qui transportent du matériel. Donc l'intervention chinoise est très discrète à la mode chinoise, elle est, à mon sens, quotidienne, et on va en voir...
Et la Corée du Nord.
Et la Corée du Nord, elle a été très claire.
Très claire, oui.
Puisque la Corée du Nord a dit « Moi, j'ai aidé les Iraniens à fabriquer des missiles avec toutes les connaissances que j'ai à 6 mois. J'ai réussi, grâce à ça, à ne pas être détruit. » Avec un petit clin d'œil pour la Libye qui a oublié qu'elle allait l'être. Hein. Et donc, j'ai toujours aidé l'Iran pour l'aider dans des missiles, toujours avec cette même base. Et donc, en fait, l'idée qu'il y a, c'est de dire, il y a ces alliés-là, la Chine, c'est très clair, la Russie a été plus discrète parce qu'elle est, elle est un peu... Enfin, très très prise, et à la raison de l'être, par le conflit ukrainien. Ouais. Mais la similitude des méthodes du Mossad, que ce soit sur le territoire de la Fédération de Russie ou que ce soit sur le territoire de l'Iran, ne laisse aucun doute. C'est le même adversaire, c'est l'impérialisme sioniste dans sa totalité.
Il ne faut pas oublier qu'en Russie, les sionistes sont très très présents, d'ailleurs.
Mais oui.
Oui, ils sont vraiment présents. Et c'est un problème.
Mais bien sûr.
Parce qu'ils ont plus, je ne sais pas combien de millions. Hein.
Oui, oui. Alors en plus... une minute, oui. Et en plus, alors... Non, mais voilà. Donc la Russie, plus prudente, parce qu'elle est en train de régler le conflit ukrainien. Mais c'est clair qu'il y a un engagement très, très précis, même si c'est discret à travers l'Organisation de coopération de Shanghai. Et c'était aussi façon de dire, là, c'est très, très clair, c'est ces alliances concrètes, l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est une organisation qui fonctionne, où on discute, on se prépare, on prend des décisions communes, on les respecte. C'est une institution internationale. C'est pas un rendez-vous comme les rendez-vous des BRICS. C'est complètement différent. Donc c'est le nouveau monde qui est en train de se préparer. Ouais. Il est là, devant nos yeux. On en reparlera dès mardi prochain. Merci de votre attention.